Radio Canut. La plus courte, celle des radios.
Moi, j'aime pas à l'école.
Le ski. Un garçon glissant sur ses skis disait: ah, le ski, c'est exquis. Je me demande bien ce qui est plus commode que le ski. Comme il filait à toute allure, un rocher se dressa soudain. Ce fut la fin de l'aventure. Il s'écria plein de dédain: vraiment, je ne suis pas bourqui. Je n'ai bu ni vin ni whisky, et cependant je perds mes skis. Non, le ski, ce n'est pas les skis. Lorsqu'une chose nous dérange, notre avis change. Pierre Garmarant.
Est-ce que c'est loin, Méaudre?
Oui, c'est loin, on est resté 2 heures dans le car.
Avez-vous vu de beaux paysages?
Oui, on a vu des maisons, on a vu des forêts.
Pourquoi avez-vous aimé Méaudre?
Parce que c'était joli et on a mangé des bons repas.
Vouliez-vous rester à Méaudre?
Oui, parce que on s'amusait dans les chambres.
Est-ce que le centre était bien?
Oui, le centre était bien, surtout la salle d'activité.
Qu'est-ce que vous avez fait en salle d'activité?
On a joué à des jeux de société, on a dessiné et on a fait du travail.
À quelle heure vous êtes-vous couché?
Le mercredi soir, on s'est couché à 20h30 et le jeudi soir, on s'est couché à 21h30.
Est-ce que vous avez dormi dans un lit superposé?
Oui, on a dormi dans un lit superposé.
Qu'est-ce que vous avez mangé le matin?
On a bu un bol de lait et avec un jus d'orange. On a mangé des céréales, on a fait une tartine avec de la confiture, du beurre et avec un yaourt.
À quel jeu avez-vous joué?
On a joué à Monopoly, on a joué aux échecs, on a joué à Puissance 4.
Est-ce que vos animateurs étaient gentils? Et comment s'appelait votre animateur?
Oui, notre animateur était gentil, il s'appelait Bernard. Et aussi, il y avait Bouchra et Caroline.
Est-ce que c'est facile de faire du ski?
Non, c'était un petit peu difficile parce qu'on tombait souvent.
Est-ce que vous avez skié avec les bâtons?
On a skié avec les bâtons le jeudi après-midi, le vendredi matin, mais pas le mercredi.
Comment était la neige?
Le mercredi et le jeudi étaient durs, le vendredi, elle était molle.
C'est quoi le chasse-neige?
Le chasse-neige est fait pour freiner.
Avez-vous aimé le ski et pourquoi?
J'ai aimé le ski parce que on faisait de grandes descentes.
Combien y avait-il de moniteurs de ski?
Il y en avait deux, ils s'appelaient Lilian et Serge.
Au milieu, pour louper l'école, je ferai n'importe quoi.
J'avoue que c'est bon de se barrer à la mer ou à la campagne.
Quand tu ressens ce besoin, quand on a envie de verdir ta compagne.
Nouvelle couleur, nouvelle odeur, ça rend les sens euphorie.
Respirer un air meilleur, ça change de mon bout de périphérique.
Est-ce que tu as déjà bien écouté le bruit du vent dans la forêt?
Est-ce que t'as déjà marché pieds nus dans l'arbre haut? Tu ne voudrais surtout pas représenter les colorulos à 4 centimes.
Mais la nature nourrit l'homme et rien que pour ça, faut qu'on l'estime.
Donc la nature, je la respecte, c'est peut-être pour ça que j'écris en vers.
Mais c'est tout sauf mon ambiance, j'appartiens à notre univers. Si la campagne côté face, je serai un produit du côté pile.
Là où les apparts s'empilent, je suis enfant de la ville.
Je sens le cœur de la vie qui cogne dans ma poitrine.
J'entends les sirènes qui résonnent, mais est-ce vraiment un crime?
D'aimer le murmure de la rue et l'odeur de l'essence, j'ai besoin de cette atmosphère pour développer mes sens.
Je suis l'enfant de la vie, je suis l'enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris.
J'écris mon envie de croiser des mouvements et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne. Je ne veux pas que des visages.
Grand corps.
Malade.
J'ai vu. J'ai appelé le terrassier. Il marchait à cloche-pied. J'ai appelé le moissonneur. Il jurait comme un voleur.
J'ai appelé le cordonnier. Il jetait tous ses souliers. Puis je m'en suis allée. J'ai vu des
hannetons tâtonnant en rond. J'ai vu des limaces faire la grimace.
J'ai vu une libellule très crébule. J'ai vu un chou-fleur chercher l'heure.
J'ai vu un artichaut qui rêvait d'être chaud, chemin faisant.
J'ai vu un lampadaire le nez en l'air.
J'ai vu un vélo près de l'eau. J'ai vu un canard en retard.
J'ai vu un lapin chaud crin-crin.
Puis j'ai vu des gens mécontents car ils ne voyaient rien. Huguette Amundsen.
Nous allons vous présenter Le Bestiaire divin, écrit au XIIIe siècle par Guillaume Leclerc de Normandie.
Cette œuvre donne des informations sur des animaux réels, comme le hérisson ou l'éléphant, et des animaux légendaires, comme la sirène et le dragon. Certaines informations sur les animaux réels sont fausses. L'éléphant ne vit pas 200 ans.
De la licorne. Nous allons parler maintenant de la licorne. C'est un animal qui ne possède qu'une seule corne, placée au beau milieu du front. Cette bête a tant de témérité, elle est si agressive et si hardie qu'elle s'attaque à l'éléphant. C'est le plus redoutable de tous les animaux qui existent au monde. La licorne a le sabot si dur et si tranchant qu'elle peut parfaitement se battre contre l'éléphant. Et l'ongle de son sabot est si aigu que, quoi que ce soit qu'elle en frappe, il n'est rien qu'elle ne puisse percer ou fendre. L'éléphant n'a aucun moyen de se défendre quand elle l'attaque, car elle le frappe sous le ventre si fort de son sabot tranchant comme une lame qu'elle l'éventre entièrement.
Cette bête possède une telle vigueur qu'elle ne craint aucun chasseur. Ceux qui veulent tenter de la prendre par ruse et de la lier vont d'abord les pieds, tandis qu'elle est en train de jouer sur la montagne ou dans la vallée. Une fois qu'ils ont découvert son gîte et relevé avec soin ses traces, ils vont chercher une demoiselle qu'ils savent vierge, puis ils la font s'asseoir au gîte de la bête et attendre là pour la capturer. Lorsque la licorne arrive et qu'elle voit la jeune fille, elle vient aussitôt à elle et se couche sur ses genoux. Alors les chasseurs qui sont en train de lipier s'élancent, ils s'emparent d'elle et la lie, puis ils la conduisent devant le roi de force et aussi vite qu'ils le peuvent.
De la sirène. Nous allons vous parler de la sirène qui a une physionomie très étrange car au-dessus de la ceinture, elle est la plus belle créature du monde, faite à la ressemblance d'une femme. Mais pour l'autre partie du corps, elle a l'allure d'un poisson ou d'un oiseau. Son chant est si doux et si beau que les hommes qui naviguent sur la mer, aussitôt qu'ils entendent ce chant, ne peuvent pas s'empêcher de diriger vers elle leur navire. Ce chant leur paraît si doux qu'ils s'endorment sur le bateau. Et lorsqu'ils sont tout à fait endormis, c'est alors qu'ils sont victimes d'une grande traîtrise. Car les sirènes les disent soudainement qu'ils n'ont pas le temps de dire mot.
L'aigle.
L'aigle est le roi des oiseaux. Une fois devenu vieux, il peut recouvrer la jeunesse grâce à la nature tout à fait extraordinaire qui est la sienne. Quand l'aigle est devenu vieux, que ses yeux se sont obscurcis, que chacune de ses ailes devenue trop faible lui pèse, il cherche une source claire et pure où l'eau est limpide et bouillonnante au moment où les rayons du soleil sont les plus éclatants. L'aigle commence alors à s'élever dans les airs très haut au-dessus de cette source en direction du soleil qui répand très haut sa lumière.
Quand l'aigle est parvenu tout en haut, à l'endroit où il fait le plus chaud, il fixe de ses yeux le grand éclat du soleil et il le contemple si longtemps qu'il lui semble qu'il prenne feu. Là, cette flamme, il embrase à la fois ses yeux et ses ailes. Puis il redescend vers la source, à l'endroit où elle est la plus claire et la plus saine, et il s'y plonge et s'y baigne trois fois, jusqu'à ce qu'il soit saché, le bien entièrement neuf et régénéré, guéri de sa vieillesse.
De l'éléphant. Nous ne devons pas prendre à la légère ce qui est dit de l'éléphant. C'est la plus grande bête qui existe et celle qui pourrait porter les plus lourds fardeaux. Et c'est un animal d'une très grande sagesse et très intelligent. Il est tout à fait utile dans les batailles et il rend de très grands services. Les Indiens et les Persans, quand ils livrent de grands combats, une coutume de charger sur son dos de grandes tours faites de bois travaillé à la dolloire et bien munies de créneaux. C'est là que montent les archers, les valets d'armes et les chevaliers pour décocher des traits à leur ennemi.
La femelle, à ce que je pense, porte 2 ans quand elle est pleine. C'est alors qu'elle met bas et jamais plus tôt. Et sachez-le, une femelle n'enfantera jamais qu'une fois et elle n'aura donc qu'un seul petit. Elle éprouve une si grande peur du dragon qu'elle va enfanter au milieu de l'eau pour préserver son petit de la mort. Et le mâle qui les surveille et les protège tous les deux attend hors de l'eau. Au sujet des éléphants, le livre dit qu'ils vivent bien de 100 ans. Ils demeurent en Inde, en Afrique. Ils naissaient autrefois dans ces pays. Ils ne naissent plus en Afrique, mais ils continuent à vivre en Inde.
Deux livres. Il existe une espèce de serpent qui a sa demeure dans l'eau et qui se nomme Hydre. C'est un animal très avisé, car il sait parfaitement s'y prendre pour faire du mal au crocodile qu'il est. Ils se vouent mutuellement une grande haine, mais l'Hydre est plus habile en matière de trahison. Quand elle voit dormir le crocodile qui, en dormant, tient la gueule ouverte, elle se plonge dans la boue et la fange, s'y vautre et s'y souille, afin de glisser plus facilement.
Ensuite, elle se dirige tout droit vers cet animal diabolique et elle se jette dans la gueule du crocodile. Celui-ci aussitôt l'avale.
Parvenue dans son ventre, l'hydre parcourt en tous sens les entrailles, les boyaux, les viscères et cherche promptement une issue. L'hydre ressort sans le moindre dommage et le crocodile meurt car ses plaies sont inguérissables et il ne peut échapper à la mort.
Du 7, nous voulons vous parler d'un être extraordinaire qui vit dans la mer. Un monstre tout à fait étonnant, très malfaisant et très dangereux. Il se nomme Cetus en latin. Il est d'un voisinage néfaste pour les marins. Les écailles qui se trouvent au sommet de son dos ont tout à fait l'aspect de sable. Quand il élève le dos au-dessus des flots, ceux qui naviguent dans les parages s'imaginent qu'il s'agit d'une île, mais leur espérance est trompée. À cause de la grandeur de la bête, les marins pourchassés par la tempête viennent y chercher refuge. Ils pensent avoir trouvé un endroit sûr. Ils jettent l'ancre, lancent la passerelle, préparent le feu et font cuire leur repas. Pour attacher solidement leur navire, ils enfoncent de grands pieux dans le sable qui, à leurs yeux, a tout à fait l'apparence de la terre.
Puis, ils font un grand feu, je vous l'assure. Mais quand ce monstre sent la chaleur du feu qui s'embrase sur le dos, alors il plonge avec une grande rapidité au plus profond des eaux, faisant avec lui plonger le navire et périr tous les hommes. Quand la faim le prend, ce poisson ouvre largement la gueule. Il sort de sa bouche un parfum d'une odeur très agréable. Aussitôt,
tous les autres poissons se précipitent de côté et ils s'élancent en très grande foule tous ensemble dans la gueule à cause du parfum qui leur semble agréable. Et le 7 les engloutit alors tous ensemble dans sa panse qui est aussi large que le serait une vallée.
Du dragon. Mais il convient que nous parlions maintenant de l'aspect du dragon. Parmi toutes les bêtes rampantes, le dragon est la plus grande et il est engendré dans un lieu très chaud. Il est en Éthiopie, il a une petite bouche et un grand corps qui étincelle comme de l'or fin. Il possède une longue queue et une grande crête.
Il est très dangereux pour l'éléphant, car de sa queue, il lui donne de violents coups dans les jambes, de telle sorte qu'il l'abat. Il n'est pas pourvu d'un venin mortel, mais il est extraordinairement grand et fort. Et de sa queue, il abat tous ceux qui tombent en son pouvoir. Il n'est pas capable de faire grand mal, si ce n'est seulement avec sa queue.
Du hérisson. Nous allons vous parler maintenant du hérisson, qui ressemble à un porcelet, tout petit lorsqu'il tète encore. Il possède des défenses très puissantes, car par nature, il est garni d'épines. Et quand il entend, ou qu'il voit, ou qu'il sent, des hommes ou des bêtes qui se trouvent près de lui, il se met à l'abri et s'enferme derrière ses armes. Après quoi, il ne craint plus guère d'être attaqué.
Il ne peut pas se défendre contre l'homme, mais si un animal voulait s'emparer de lui, je ne sais comment il pourrait parvenir à le dévorer sans que le hérisson ne lui fasse de cruelles blessures.
Le hérisson qui a son gîte dans les bois et dans les buissons est très avisé. Il se comporte d'une manière très habile. Quand il est en quête de nourriture, à petits pas, il se rend dans une vigne dont les raisins sont mûrs. Il fait tant et si bien qu'il grimpe sur la vigne, à l'endroit où il y a la plus grande quantité de raisins. Et il la secoue si fort que les grains tombent en abondance.
Quand ces graines jonchent le sol, le hérisson redescend et il se roule sur eux en se mettant sur le dos, en toussant de telle sorte que les raisins viennent se ficher sur les piquants qui sont très fins. Et une fois qu'il s'est abondamment chargé, il s'en retourne tout tranquillement vers son terrier où se trouvent ses petits. Et aussi longtemps que dure la saison des pommes, il agit de la même manière que celle que je vous ai décrite pour les raisins.
Du phénix. Il existe en Inde un oiseau que l'on nomme phénix. C'est là qu'il demeure en permanence et il est impossible de le trouver ailleurs. Cet oiseau est toujours dépourvu de compagnons, car il n'en est jamais qu'un seul à la fois. Il vit 500 ans. Pour autant que je sache, en conservant une belle apparence, un bon visage, sans changer le moins du monde d'aspect et de manière d'être. Quand les 500 ans sont accomplis, alors il se sent trop vieux. Et il se cherche d'épices excellentes, précieuses et de diverses espèces. Du désert, il s'envole pour la ville d'Héliopolis. Dans cette ville se trouve un prêtre qui, en vérité, est instruit de l'événement. À certains signes, il connaît avec certitude la venue de l'oiseau. Et lorsqu'il sait que le phénix doit venir, il fait cueillir des branches de fenouil et les plie en un petit faisceau. Il les dépose sur un très bel autel. L'oiseau, chargé d'épices ainsi que je vous l'ai dit, vient le trouver quand il veut se rendre à l'autel. De son bec, il allume le feu, car il frappe si fort sur la pierre dure que le feu, par un heureux hasard, en jaillit. Il enflamme et embrasse très rapidement les épices et les sarments. Quand le feu brûle clair et ardent, l'oiseau s'y jette aussitôt et s'y consume jusqu'à ce qu'il soit réduit en poussière et en cendres. Alors arrive le prêtre pour voir comment la chose s'est passée.
Il découvre un tas de cendres qu'il écarte tout doucement, jusqu'à ce qu'il y ait trouvé un petit ver qui exhale une odeur beaucoup plus douce que celle d'une rose ou que quelque autre fleur que ce soit. Le prêtre revient le lendemain pour voir ce qu'il advient de l'oiseau, qui a déjà pris forme. Au troisième jour, on peut lui donner le nom d'oiseau, et il est pourvu de tout ce qui lui est nécessaire. Il salue alors le chapelain en s'inclinant devant lui, puis il repart tout joyeux. Il ne revient que 500 ans plus tard.
Je travaille au charbonnier dans le centre-ville. Je vends l'hiver et l'été des mulets en reptiles. C'est mon
Salut, Mams.
Bonjour, mes chéris, vous voulez vos céréales?
Oui, Mams.
Elles sont dans le placard de la cuisine.
Quoi? Chocipic? C'est quoi ce truc?
C'est bon, mais ça pique.
Ah, ça pique! Ça pique!
Avec les céréales, le piment Chocipic, vous aurez de plaisir!
Radio Canu. La plus belle des radios.
Il s'en passe des choses dans ma cité, il n'y a qu'à regarder. Moi, un jour, j'ai dit, j'arrête, je regarde. J'ai posé par terre mes deux sacs, je me suis assis, j'ai regardé.
Les gens venaient, les gens marchaient, les gens passaient, les gens tournaient, les gens filaient, les gens glissaient, les gens dansaient.
Les gens parlaient, gesticulaient.
Les gens criaient, les gens riaient, les gens pleuraient,
disparaissaient. Il s'en passe des choses dans ma cité. Il n'y a qu'à regarder. On voit de tout, on peut tout voir.
N'importe quoi, on voit rien du tout.
Mais ce qu'on ne voit jamais dans ma cité, c'est un regard. Un regard qui vous regarde et qui s'attarde.
Les gens naissaient.
Les gens vivaient. Les gens mouraient.
Et moi, là, je restais sur mon banc de pierre, encadré par mes deux sacs. Je regarde. C'est merveilleux. Partout il y a des femmes, partout il y a des hommes, partout il y a la vie. J'aurais dû me lever, leur tendre la main, leur dire « Salut !»«
Bonjour !» !»«
J'existe !» Et vous, vous existez? Je suis restée assis.
N'importe quoi.
Le plus souvent, c'est ainsi que les choses se passent. Guy Fossé.
Devinette! Qui décoiffe la mer avec des mains qu'on ne voit pas? Qui roule sa chanson dans la gorge des torrents?
Qui n'est jamais si lourd que quand un oiseau meurt?
Le vent, la pierre et le silence.
Qui est ronde comme une joue et plus lourde que la peine?
Qui habille le monde quand il se fait tard? Qui souffle chaque soir la bougie du soleil? La pierre, le silence et le vent.
Anana Toyama est une personne qui vient du Japon. C'est une chorégraphe de danse professionnelle. Elle est en France depuis plusieurs années. Elle fait de la danse depuis l'âge de 4 ans. Elle a commencé au Japon, puis elle est allée aux États-Unis pour devenir danseuse professionnelle. Maintenant, Anana est en résidence à Vaux-en-Velin. Elle travaille avec les Vaudais et aussi dans les écoles de Vaux-en-Velin. Et nous, les CM1 de Courcelles, nous avons la chance de travailler le mardi une fois sur deux avec elle. C'est la chef de la compagnie Atohu. Et en novembre, ils ont présenté le spectacle Welcome.
Anan est en résidence à Vaux-en-Velin pour 2 ans. Ça veut dire qu'elle travaille uniquement sur notre ville. Et en plus du spectacle Welcome qu'elle a préparé, elle fait découvrir la danse à toutes sortes de personnes de la population vaudeste. Par exemple, les enfants de l'école, les retraités, les adultes et les adolescents, les mères et leurs enfants et des gens qui parlent plein de langues, c'est-à-dire qui sont multilingues.
Pour participer au travail de danse avec Anan, il faut de la concentration et du respect des autres. L'objectif d'Anan est de nous apprendre à communiquer non par la parole, mais par le regard et les toucher. Nous, on fait de la danse le mardi une fois sur deux avec Anan. On est des amateurs. Nous ne savons pas encore très bien danser, mais nous faisons nos propres pas et notre chorégraphie. On a un spectacle prévu en juin. Nous vous tiendrons au courant.
On s'améliore de semaine en semaine. À l'école Courcelles, la première semaine de septembre, nous avons eu la chance d'assister à un spectacle de danse fait par des Japonais. C'est Anan Atoyama, chorégraphe japonaise travaillant à Vaux-en-Velin, qui les avait invités. C'était donc un jour très spécial. Il s'agissait d'une troupe de jeunes danseurs amateurs. Ils avaient entre 15 et 19 ans. Ils venaient de Fukushima, l'endroit où il y a eu les tremblements de terre et la catastrophe nucléaire. Maintenant, ils n'habitent plus à Fukushima, car c'est trop dangereux à cause des radiations. Ils n'étaient que 7, mais au Japon, dans leur groupe, ils sont 40. Il y avait qu'un garçon.
Le spectacle qu'ils ont fait était intéressant parce qu'ils étaient très ensemble pour les mouvements. Et il y a un moment où ils faisaient un geste chacun l'un après l'autre. À la fin, les danseurs sont venus nous prendre la main pour qu'on danse avec eux. Puis à la récréation, ils nous ont laissé essayer leur instrument. Leur costume était très beau et plein de couleurs. Bravo à Lika, Lisako, Luca et tous leurs copains japonais pour ce spectacle qu'ils nous ont offert.
Visite à Charlie Chaplin.
Bonjour, je m'appelle Adam, je vais poser quelques questions à Garib sur la visite que la classe de CM1 a faite à Charlie Chaplin. Alors Garib, qu'est-ce que Charlie Chaplin ?
Charlie Chaplin est une salle de spectacle qu'on appelle aussi le 5C, qui veut dire Centre culturel communal Charlie Chaplin.
Comment c'est là-bas ?
C'est très grand, il y a beaucoup d'espace. On peut mettre 120 personnes ou plus, car on peut rajouter des sièges. Et il y a aussi des endroits interdits aux spectateurs, comme les loges et les coulisses.
Qu'est-ce que les loges et les coulisses ?
Les loges, c'est une petite pièce réservée aux acteurs pour se changer et pour se maquiller. Et les coulisses, c'est la partie d'un théâtre que le public ne voit pas. Elle est située derrière les décors et sur les côtés de la scène. C'est là où se tiennent les acteurs avant d'entrer en scène.
Qu'avez-vous fait là-bas ?
On a assisté à une répétition de la compagnie de danse atelier.
Qu'est-ce qu'une répétition ?
C'est une séance de travail au cours de laquelle des artistes répètent un spectacle avant de le présenter au public, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent.
Chose vue, pendant 8 heures, des SDF se pressent.
Tenez un peu debout, ils font la queue.
Pour obtenir peut-être une place fixe, un lit.
D'octobre à avril dans un dortoir,
le plus grand d'Europe.
Que feront les derniers de la file ?
Jacqueline, elle.
Moi, quand j'étais petit, j'avais mal. C'était l'état de mon esprit. Je suis né malade sur l'échelle de Richter, de la misère. Malade, ça vaut bien 6, quelques degrés en dessous, de là où c'est gradué fou. J'étais voleur, et avant d'aller voler, je priais.
Je demandais à Dieu de ne pas me faire attraper. Je lui demandais que la pêche s'abonne, qu'à la fin de la journée, elle guiquille des bords de mes poches. Bien souvent, j'ai failli me noyer. J'ai été à sec aussi souvent. Quand j'ai croisé papa le matin, il travaillait avec sa 102 bleue.
En rentrant le matin de soirée, je me disais, c'est un bonhomme, mon vieux. Ensuite, je me faufilais dans mes couvertures et je dormais toute la journée. Le style vampire, dormir la journée, rôder une fois le soleil couché. Le genre de prédateur à l'envers qui a la vie d'un poulet, meurt de peur. Je ne me suis jamais fait prendre. Si j'aurais été pris au keuf, j'aurais dit Abdel Malik.
Notre classe de CM2 est inscrite à un concours intitulé « Les petits artistes de la mémoire » organisé par des associations d'anciens combattants. Le concours a pour objectif de préserver et transmettre aux plus jeunes la mémoire des combattants de la Première Guerre mondiale.
Nous devions sélectionner un soldat de la Première Guerre mondiale. Ces soldats ont été appelés les poilus, car ils vivaient dans les tranchées, dans des conditions atroces, sans pouvoir se laver ni se raser.
Grâce à une enseignante, nous avons récupéré deux classeurs de lettres d'un poilu nommé Paul Garçon.
Tout de suite, nous allons vous faire écouter une interview de Madame Pisaneski qui va vous raconter comment elle s'est procuré ces lettres.
D'où proviennent les lettres ?
Alors, je travaillais avant d'être institutrice dans un hôpital. Et donc, c'est à la mort d'une patiente de cet hôpital qui était très, très, très âgée, hein, qui avait sans doute plus de 95 ans, qui n'avait plus de famille. Donc, ses affaires ont été jetées à la poubelle dans la déchetterie. Et moi, j'ai récupéré ses lettres parce que je les ai vues à la poubelle. Et je me suis dit que c'était vraiment dommage que ces lettres disparaissent comme ça, disparaissent avec elle. Voilà. En mémoire de son mari, elle les avait gardées toute sa vie. Et je trouvais que c'était dommage que ces lettres disparaissent. Surtout qu'elle parlait de la période de la guerre et que c'était important.
Est-ce que Paul Garçon avait des enfants ?
Non, ils n'avaient pas du tout de famille. Enfin, je ne crois pas qu'ils avaient des enfants. Et de toute façon, cette dame n'avait pas du tout de famille qui venait la voir à l'hôpital. Mais comme la plupart des patients en long séjour, puisque c'était un long séjour, ils n'ont plus de famille qui viennent les voir. Ils ont perdu, soit ils ont déjà perdu leurs enfants. Ils sont seuls, enfin souvent. Pas tous, mais elle était très seule. Quoi. Elle n'avait pas du tout de famille.
Est-ce que d'autres lettres ?
Est-ce qu'il y a d'autres lettres ? Non, c'est les seules que j'ai récupérées. Elle les avait gardées bien emballées dans un petit ruban. Et c'est sans doute ce qui m'a attirée quand je les ai... quand je les ai vus à la poubelle. Et j'en ai parlé avec la direction de l'hôpital et je leur ai dit que je récupérais ces lettres et personne ne les a réclamées. Donc je les ai gardées.
Pour quelles raisons vous les avez conservées ?
Je les ai conservées, d'abord, premièrement, pour l'intérêt historique qu'elles représentent, c'est-à-dire que c'est une période qui est très importante, la période de 14-18, qui est étudiée dans les écoles, et c'est par amour pour l'histoire, je suppose, que j'ai voulu conserver ces lettres.
Quel âge avait Paul Garçon quand il était à l'hôpital ?
C'était pas Paul Garçon qui était à l'hôpital, c'était sa femme. Paul Garçon, il était mort sans doute bien, bien avant, depuis longtemps, quand cette dame est décédée à l'hôpital. Et elle avait gardé les lettres de son mari. Paul Garçon, c'était son mari, c'était donc Madame Garçon. Je ne sais pas quel âge elle avait exactement, mais sans doute plus de 95 ans, comme la plupart des gens qui sont dans les longs séjours.
Pourquoi nous vous avez vous donné ces lettres ?
Alors quand j'ai su que Madame Pogam, votre maîtresse et vous qui êtes en CM2, travaillez sur cette période de la guerre 14-18 et qu'elle allait rechercher des documents sur cette période, sur la guerre, je me suis dit que c'était le moment de les ressortir puisque, à part moi qui les ai lus, après le décès de leur propriétaire, elles n'ont pas servi. Je les avais bien classées dans un porte-vue et elles étaient bien rangées, mais elles ne servaient à rien d'autre. Puisque j'avais retrouvé en recherchant aucune trace de la famille, d'une quelconque famille de monsieur ou madame Garçon. Et donc, je me suis dit que c'était le moment qu'elle serve à quelque chose et qu'elle vous serve à vous dans la classe, comme témoignage et comme document, en tout cas, de cette période. Et je suis très contente de l'avoir fait et de vous avoir fait profiter de ça.
Nous essayons de trouver le plus de renseignements possibles sur la vie de ce soldat français. Nous recherchons des descendants de ce poilu.
Pour cela, nous avons envoyé une lettre à la mairie de Bourg-en-Bresse pour avoir des informations sur l'état civil de Paul Garçon. La mairie de Bourg-en-Bresse a répondu et a envoyé deux documents. Le premier document nous a servi à savoir la date de naissance de Paul Garçon et le jour de sa mort.
Cela s'appelle un acte de naissance. Le deuxième document, il nous a permis de savoir qu'il avait deux frères et une sœur. On sait qu'il s'est marié le 14 décembre 1934 à Caluire avec Gabrielle Sarrazin et qu'il est décédé le 16 octobre 1973 à Caluire.
Nous avons donc écrit à la mairie de Caluire pour voir s'il y avait des archives concernant Paul Garçon.
Avant de vous faire écouter des extraits, nous allons vous expliquer pourquoi la Première Guerre mondiale a-t-elle eu lieu. Tout d'abord, avant la Première Guerre mondiale, en 1870, la France et l'Allemagne sont entrées en guerre. La France a perdu deux départements qui sont l'Alsace et la Lorraine.
Cette défaite a été terrible pour la France qui a perdu un morceau de ce territoire. Depuis cette guerre, la France a toujours voulu prendre une revanche pour reconquérir l'Alsace et la Lorraine.
44 ans après, en 1914, l'Europe est partagée en deux camps. La France est alliée à l'Angleterre et la Russie, alors que l'Allemagne est alliée à l'Italie et la...
Toute l'Europe se prépare à la guerre. Le 28 juin 1914, le futur roi d'Autriche est assassiné. L'Autriche déclare la guerre à la Serbie.
La Russie entre en guerre à son tour. En quelques jours, tous les pays européens entrent en guerre.
Tout de suite, nous allons vous présenter des extraits de lettres de Paul Garçon qui sont adressés à ses parents. Extrait de la lettre du 4 mai 1916. Mes chers parents, enfin je vous écris chose que j'aurais dû faire un peu plus tôt. Je suis arrivé à la caserne lundi à 4h du matin, après un excellent voyage. Le premier jour était un peu triste, mais maintenant nous n'avons plus le cafard. Le travail est repris avec le même courage.
En mai 1916, Paul Garçon part à Dijon en train pour apprendre à devenir soldat et aussi devra apprendre à monter à cheval. C'est lui qui devait acheter sa tenue comme le pantalon rouge. Dans ses lettres, il raconte que le pantalon n'est pas très efficace car il était trop vaillant et les soldats français se faisaient repérer trop vite.
Extrait de la lettre du 24 juin 1916. Votre billet a été le bienvenu, car cette semaine j'ai fait une dépense extraordinaire. Avec mes économies faites sur ce que vous m'aviez donné pour arriver à la caserne, et depuis sur ce que vous m'aviez envoyé, je me suis fait faire un pantalon réglementaire d'artillerie à bandes rouges.
Dans les lettres de 1916, Paul Garçon raconte qu'il allait voler des fruits dans les champs parce que la nourriture manquait.
Extrait de la lettre du 20 juin 1916. Je regrette de ne pouvoir aller manger des cassis, groseilles et cerises du jardin. En fait, de fruits de ce genre, je ne mange que ceux que l'on a l'occasion de piquer dans les champs pendant les marches.
Les soldats creusent leurs tranchées. Les conditions deviennent invivables. Il manque de nourriture. Il fait extrêmement froid.
En août 1916, Paul Garçon fait un voyage à Brest. C'est la première fois qu'il va voir l'océan. Il met 8 jours à traverser la France. Il part à Brest pour aller chercher les chevaux qui ont été envoyés par les Américains.
Extrait du 27 août 1916. Mes chers parents, ce soir, je n'ai été si content. Je pars à Brest chercher des chevaux. Quelle belle promenade! Vous savez que c'est la première fois que je vais voir la mer. Nous partons 8 jours.
Prochaine émission, nous vous lirons des lettres de Paul Garçon
quand il est parti au front et notamment à Verdun.
Un soir, disait Condorcet à plus d'un confrère, j'ai dans la tête un projet qui pourra vous plaire. Il nous faut, mes chers amis, établir en ce pays une république d'une forme unique. Dont on voulait de Louis porter la couronne, mais bientôt à mes amis quand on s'abandonne. Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux, ma foi, qu'une république.
Salut, t'as fait une drôle de tête.
J'ai un problème, j'en peux plus. C'est horrible, je n'attire que des belles femmes.
Oh, Faisal.
Ah, c'est quoi toutes ces filles?
Oui, mais elles me courent toutes après, c'est l'enfer.
Moi, j'ai la solution à ton problème. Le parfum Hugo Moche, tu verras, tu seras débarrassé de toutes ces beautés.
Avec Hugo Moche, les machettes sont dans la poche.
Radio Canu. La plus mortelle des radios.
récapitulons le jeu du poulet. Si tu veux apprendre des mots inconnus, récapitulons, récapitulons. Si tu veux connaître des jeux imprévus, locomotivons, locomotivus. Mais les jeux les plus parfaits sont les plus connus. Jouons, poulet. Je suis le renard, je cours après toi, plus loin que ma vie.
Comme tu vas vite!
Si je m'essoufflais, si je m'arrêtais...
Si! Si la sardine avait des ailes!
Si Gaston s'appelait Gisèle!
Et pourquoi pas Bretzel?
Si l'on pleurait lorsque l'on rit!
Si le pape habitait Paris!
Et pourquoi pas Tahiti?
Si l'on mourait avant de naître!
N'importe quoi! Si la porte était la fenêtre!
Si l'agneau dévorait le loup!
Si les Normands parlaient Zoulou!
Et pourquoi pas Poupou?
Si la mer Noire était la Manche!
Et la mer Rouge, la mer Blanche!
Si le monde était à l'envers!
N'importe quoi! Je marcherai les pieds en l'air!
Le jour, je garderai la chambre!
J'irai à la plage en décembre!
2 et 1 ne ferait plus 3!
Lol! Quel ennui ce monde à l'endroit!
À Vaux-en-Velin, nous avons la chance d'avoir 2 festivals. Le festival de jazz et le festival du film court.
Un festival, c'est une série de représentations de spectacles qui se déroulent périodiquement au même endroit. Par exemple, un festival de cinéma, de théâtre, c'est un mot qui est de la même famille que le mot fête.
Nous allons parler du festival du film court auquel on a participé. Il s'intitule Un point c'est court et a lieu tous les ans. Cette année, c'était la 13e fois. Cela se passait du 11 au 19 janvier 2013 à la salle des Amphis.
Une vingtaine de personnes ont participé à l'organisation et il y avait en plus des personnes pour choisir les meilleurs films et leur décerner des prix. De nombreux films étaient en compétition. Nous avons participé à une séance scolaire. À cette occasion, nous avons vu 6 films que nous allons vous présenter maintenant.
L'école du village,
Cogitation,
Le repos des étoiles,
Garagoute,
Bad Toys, Tête du feu.
Bonjour, je m'appelle Pauline, je vais vous présenter un film court qui s'appelle L'école du village. Sa durée est de 20 minutes 50. Il s'agit d'une histoire qui se déroule dans une école où il y a des élèves tous différents. Parfois, ils jouent ensemble et parfois, ils se disputent. L'arrivée d'un nouvel élève va unir les enfants autour d'un secret. Maintenant, je vais vous parler de sa réalisation, qui est hors du commun. C'est en fait un film d'atelier réalisé en Belgique durant l'année 2012, mais par des enfants âgés de 9 ans à 13 ans. Ils ont chacun modelé un bonhomme en pâte à modeler.
Moi, Mariama, je vais vous parler du film Cogitation, qui a été réalisé en 2012 et créé en Belgique. Le film dure 9 minutes. C'est une interview de gens réels qui sont dessinés car c'est un film d'animation. À chaque fois, on leur pose la même question. Est-ce qu'ils veulent partir ou rester du Burkina Faso? Ce sont des personnes qui habitent à Ouagadougou. Ils ont tellement envie de réaliser leurs rêves que beaucoup veulent changer de pays. Par exemple, venir en France. Ce film m'a énormément plu parce que les dessins des personnes me faisaient rire, leur nez par exemple.
Moi Lina, je vais vous parler du film court Le robot des étoiles. Il a été réalisé par Jérôme Desbuchères et dure 5 minutes 48. Je vais vous raconter l'histoire qui était très drôle. C'est un père, une mère et un fils. Le père avait fabriqué un robot qui détectait les mensonges. Un jour, le fils était rentré tard de l'école. Il a menti en racontant son retard. Alors, il a reçu une claque du robot. À la fin du film, même les parents ont reçu une claque. On comprend qu'eux aussi sont des menteurs. Savez-vous, chers auditeurs, que toute ma classe a voté pour ce film, car c'était le meilleur.
Bonjour à tous, on s'appelle Sabrina et Léa.
On va vous parler de Garagouze.
C'est un film de langue algérienne.
C'est une histoire.
Avec 2 personnages principaux, un garçon qui s'appelle Nabil et son père.
Ils vont traverser la moitié du pays de l'Algérie pour présenter un spectacle de marionnettes. Mais il y a toujours des gens qui les arrêtent.
Le père de Nabil est en effet marionnettiste. Cette histoire a été créée par Abdou Zaza.
Il a été fait en 2010. Ce film dure 24 minutes.
C'est une fiction.
Bonjour, on s'appelle Ismaël,
Abdullah
et Anthony.
On va vous parler de Bataille 2. C'est un film où il y a deux hommes et trois braqueurs de banque. Les deux hommes les ont aperçus et veulent les attraper. Ils sont derrière eux, ils les poursuivent et soudain, ils voient des Lego géants en métal que les trois voleurs leur jettent.
Ils finissent par tous les esquiver. Et ils terminent par un dérapage et toutes les voitures rentrent les unes dans les autres. Cela fait un gigantesque accident. À la fin, ils attrapent les voleurs.
Ce film a été créé en France en 2012. C'est une animation qui dure 5 minutes 45. Il a été réalisé par Daniel Brunet et Nicolas Doust.
Sur ce but-là, on n'y faisait pas la noce. Comme un combat, toujours pas nous la flot. Mais les pancartes qui ont laissé les gosses, ils viennent entendre de terribles sanglots. Ce que l'on a vu, c'est l'arme, cette guerre. L'arme d'ouvrier, l'arme de paysan. Car les bandits qui sont cause des guerres ne pleurent jamais car ce sont des tyrans. La vie touche et son nom, la dame six d'un matin, où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui il y a des vignes, il y pousse du raisin.
Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à Jeanne qui cherchait aventure et que la faim en ce lieu attirait.
Quittera si hardi de troubler mon bourrage,
dit cet animal plein de rage.
Tu seras châtié de ta témérité.
Sire,
répond l'agneau,
que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vais désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa poisson.
Tu la troubles,
reprit cette bête cruelle.
Et je sais que de moi, tu me dis d'en passer.
Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas née,
reprit l'agneau.
Je t'aime encore ma mère.
Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.
Je n'en ai point.
C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère. Vous, vos bergers et vos chiens, on me l'a dit, il faut que je me venge.
Là, dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès.
Jean de la Fontaine.
Chers amis, il faut bien savoir que rien n'est moins joli avant que petite mosse dégoûtant mangeant du chou tout le temps.
C'est presque aussi mal, avouez, que de se mettre les doigts dans le nez.
On vous le dit et c'est bien vrai, les chewing-gums ne paient jamais. C'est d'habitude déplorable après une fin bien lamentable.
Connaissez-vous la triste histoire de Miss Pipe Noire, la redoutable mijaurée mastiquée toute la journée. Elle mastiquait soir et matin, à l'église, au bal, dans son bar, dans l'autobus, dans l'ascenseur. Vraiment, ça vous soulevait le cœur. Et ayant perdu son chewing-gum, elle mâchait du linoleum. Tout ce qui était à sa hauteur, des gants, l'oreille du facteur, le jupon bleu de sa belle-sœur et même le nez de son danseur.
Ah, dégueulasse. Elle mâchait sans répit. Sa mâchoire, sa ressentie et l'intrigue de son menton fut celle du boîte à violon. Ainsi passèrent les années, 50 paquets par journée, jusqu'à ce fameux soir d'été où ce grand drame est arrivé.
Après avoir lu dans son lit, toi mâchant un très grand bruit.
Elle déposa son chevet, ce morceau de chewing-gum mâché, juste à côté de son réveil, puis elle sombra dans le sommeil. Mais malgré tout, dans la nuit noire, toujours s'agitait ses mâchoires.
Comme elle n'avait rien sous la dent, ce fut d'autant plus trépidant. Elle était si bien traînée qu'elle ne pouvait plus s'arrêter. Ça faisait tic-tac dans le noir, avec un vrai bruit de battoir. Sa bouche, telle une porte cochère, s'ouvra avec un vrai bruit de tonnerre.
Enfin, sa mâchoire géante bâilla et demeura béante. Pour un bon moment, puis se refermera violemment et se coupèrent les deux. Elle eut la langue coupée en deux.
Mais pour le reste de ses jours, elle fit un très long séjour à l'affreux sanatorium, tout cela à cause du chewing-gum.
Augustus Gloop, tu l'as bien mérité ta soupe. On en a assez de te voir qui te remplit le réservoir.
Bien fait, joufflu,
bouffi,
gourmand,
glouton.
énorme comme un gros cochon. Toujours et désespérément, il en ira petit et grand. Normalement, c'est en douceur qu'on dompte le marmot frondeur.
On le transforme sur le champ en quelque chose d'amusant. En un ballon, un jeu de loi, un baigneur, un dada en bois.
Mais pour ce gamin révoltant, nous procédons tout autrement.
Goulu.
Ventru.
Insociable. Il laisse un goût peu agréable dans notre bouche et c'est pourquoi...
Il faut d'abord qu'on le nettoie. Alors vivement le tuyau et puis en route par Mons et Vaux. Et bientôt il fera escale dans une bien étrange salle.
Ne craignez rien, petit chat. Augustus ne souffrira pas.
Ouais, ouais, c'est ça. Pourtant, il faudra bien l'admettre. Il se transformera peut-être une fois passé dans la machine à fabriquer la nougatine.
Alors que les roues tourneront avec leurs dents d'acier ronron. Et que sans larmes feront le reste, ajoutons un peu de zeste, un peu de sucre, un peu de lait.
Pour un résultat plus parfait. Une minute de cuisson au moins pour être tout à fait certain que de tous ces vilains symptômes, il ne reste plus un atome.
Puis le voilà sorti. Bon Dieu, un vrai miracle radieux. Ce gars qui voilà, peu de temps, faisait hurler petits et grands.
L'hippopotame, la brute immonde, va être aimé de tout le monde, car qui pourrait faire grise mine à un morceau de nougatine.
Véricassos, l'horrible enfant, voilà qu'elle descend le toboggan.
Aussi avons-nous cru bien faire afin de régler cette affaire qui nous causait tant de tourments, d'expédier aussi ses parents.
Veruca se volatilise, il faut bien qu'on vous le dise.
Il se peut bien qu'elle connaisse des amis d'une toute autre espèce.
Des amis bien moins raffinés que ceux qu'elle vient de quitter.
Voyez la tête de morue qui au passage la salue.
En descendant ce tuyau sombre, elle fera bien d'autres rencontres.
Des oseronniers, du lard moisi, de vieux croutons, de parassis.
Un steak dont on n'a pas voulu, un camembert tout vermoulu.
Une coquille d'huître triste à voir, un bout de saucisson tout noir. Des noix pourries à chaque pas, de la sciure au pipi de chat.
Tout ça galope et s'enchevêtre en pestant à 3 km.
Tels sont les amis délicats qu'aura rencontré Veruca. En descendant à son passage, vrai pour une enfant de son âge.
Direz-vous, c'est un bien triste sort. C'est juste, vous n'avez pas tort.
Car bien qu'elle soit insupportable, elle n'est qu'à moitié coupable.
Et c'est pourquoi, à voix haute, on vous demande à qui la faute.
Car, et c'est loin d'être un problème, on ne se gâte pas soi-même.
Qui donc a fait de Veruca le petit monstre que voilà? Hélas, hélas, ne cherchez pas, ils sont tout près, les scélérats.
Oh, c'est bien triste à dire, vraiment. Ils ont pour nom papa et maman.
Les vilains routent pour la fournaise, la solution n'est pas mauvaise.
Le premier des commandements en ce qui concerne les enfants est celui-ci.
Éloignez-les de votre poste de télé, ou mieux, n'installez pas du tout ce machin idiot chez vous.
Dans presque toutes les maisons, on les a vus en vraie maison, vautrer devant leurs appareils, on n'a jamais rien vu de pareil.
Les yeux leur sortaient de la tête, il y en avait plein sur la carpette.
Transi absent les yeux en boule devant ces postes qui les saoulent.
Les bourres à longueur de journée, de nourriture insensée.
Vrai, ils se tiennent bien tranquilles, ils ne font pas les imbéciles.
Ne touche rien, ne casse rien, ne poussons pas des cris d'indien.
En un mot, ils vous fichent la paix, étant bien sales, cela est vrai.
Mais savez-vous, mes chers adultes, ce qu'il y a de ravageant ce culte?
Utile, louable, pas question.
Ça vous tue l'imagination.
Ça vous colmate les ménages.
Ça vous transforme en petit singe.
En potin et en abruti.
Sans fantaisie, sans esprit.
En ramollant en automate.
Avec des têtes comme des patates.
D'accord, nous direz-vous d'accord, mais quel sera alors le sort
de nos petits insectes frustrés, que trouver pour les amuser?
Justement, là est la question, le monstre appelé télévision.
Si on a une bonne mémoire, n'a pas toujours été notoire.
Que faisiez-vous étant petit pour vous vitaminer l'esprit?
C'est oublié, faut-il le dire tout haut, les enfants savaient lire.
Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Monsieur Veto avait promis, Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à son pays, d'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué, ne faisons pas de quartier. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Antoinette avait résolu, Antoinette avait résolu de nous faire tomber sur le cul, de nous faire tomber.
son, vive le son. Dans son placard manuel, vive le son du canon. Oui, je suis sans culotte de moi, oui, je suis sans culotte de moi. En dépit des amis du roi, en dépit des amis du roi. Vive les Marseillais, les Bretons et nos Lois. Dansons la Carmagnole, vive le son, dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Amis, restons toujours unis, amis, restons toujours unis. Ne craignons pas nos ennemis, ne craignons pas nos ennemis. S'ils viennent nous attaquer, nous les ferons sauter. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son.